Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Philippe Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Il y a un rapport qui a été publié dans la revue médicale de Lancet sur les changements climatiques et les effets des changements climatiques sur la santé des gens. Et dans ce rapport-là, il y a des recommandations pour le Canada comme tel. Pour en parler, la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, présidente de l'Association des médecins pour l'environnement et les co-auteurs de ce rapport-là. Madame Pétrin-Desrosiers, bonjour.
Bonjour.
Si on regarde la principale conclusion, recommandation de ce de votre rapport, pas juste pour le Canada, mais de façon globale, c'est quoi?
De façon globale, en fait, cette publication-là du Lancet rappelle que les changements climatiques continuent d'avoir une influence négative sur la santé, puis que les progrès ne se font pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Donc, on a encore beaucoup de retard. On devrait accélérer notre réponse aux changements climatiques de façon à protéger la santé humaine. Et gardant en tête que ces impacts-là sont ressentis de façon disproportionnée par les groupes les plus défavorisés en situation de vulnérabilité. Et ça, ben, non seulement à travers le monde, mais ici même au Canada.
Ah ouais, comment ça? Justement, comment ça fait, puisque je disais justement que ça accroissait les inégalités, c'était souvent les populations les plus vulnérables qui allaient être le plus touchées. En quoi ça les touche davantage?
Exactement. En fait, c'est une multiplication de risques croisés. Hein. On sait que les changements climatiques, c'est des événements météorologiques extrêmes, c'est des risques d'insécurité alimentaire, c'est des risques d'apport en eau potable, c'est des risques de sécheresse. Donc, ça peut engendrer un fardeau économique, un fardeau financier. Ce qu'on réalise aussi, c'est que les pays, souvent, qui sont les plus défavorisés d'un point de vue climatique, sont aussi qui ont le moins de ressources financières et du système public là, les moins solides pour y faire face. Donc, on est dans une situation perpétuelle d'inégalité. Quand on regarde au Canada, ben on le voit se reproduire de façon un peu similaire face aux populations autochtones qui ont des risques environnementaux sont beaucoup plus grands que d'autres populations. Ou même, on peut regarder à Montréal, un des exemples très concrets, ça a été cité par la Direction régionale de santé publique de Montréal, mais quand il y a des vagues de chaleur, on sait que les gens qui vivent dans les quartiers à un niveau socio-économique plus faible, comme par exemple Châteauguay-Maisonneuve, le nord de l'île, ont tendance à souffrir beaucoup plus de la chaleur, notamment parce qu'il y a des eaux de chaleur, un manque de verdure, mais le risque de décéder d'une vague de chaleur est inégal à travers la ville et pire dans les quartiers socio-économiquement défavorisés. Donc, c'est un type d'inégalité qu'on voit là, un petit peu partout, à la fois au Canada et à travers le monde.
Et là-dedans, il y a des recommandations pour le Canada. L'une d'elles, c'est, bon, on le savait, là, utiliser l'argent de subvention à l'industrie fossile pour avoir de nouvelles stratégies. C'est pas mal la principale.
Mm-hmm. Oui, ben en fait, la façon qu'on a analysé le rapport canadien, c'est juste pour le système, on utilise des données qui nous sont partagées par le Lancet. On choisit ce qu'on trouve pertinent pour le Canada actuellement. Et on traduit ces données-là en recommandations politiques. Donc, on regarde qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, on ne fait pas ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire de plus. Et on a choisi cette année dans le rapport canadien de miser sur les deux piliers de l'action climatique en reconnaissant qu'on était souvent l'adaptation climatique. Donc, on a une série de recommandations là-dessus. Et le deuxième pilier de l'action climatique, c'est la diminution de nos gaz à effet de serre qu'on appelle souvent la mitigation. Et bon, ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait diminuer nos gaz à effet de serre, qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne le fait pas? Et on s'est rendu compte que même si on avait un certain revenu qui venait de la taxe carbone, il était négativé par le fait qu'on subventionnait l'industrie fossile et on le fait beaucoup dans cette espèce de relance économique là, après la COVID, même si on est encore dedans. Mais le deuxième élément qu'on s'est rendu compte, ça a été un travail qui a été fait en collaboration avec une chercheuse canadienne, Angela Carter, qui étudie ça beaucoup, mais on s'est rendu compte que l'industrie fossile était très, très, très présente, bien évidemment, au niveau du lobbying politique, mais que dans la dernière année, elle avait eu à peu près 4,5 fois plus de rencontres avec des décideurs, des gens qui gravitent autour du gouvernement que les organisations environnementales et des experts environnementaux. Donc, il y a une disproportion dans ce qui est fait comme lobby. Et donc, c'est une de nos recommandations, c'est vraiment un ratio un pour un entre l'industrie et la société civile. Et ça ne sort pas de nulle part. Là. Ça a été une politique qui avait été implantée dans l'élaboration du dernier guide alimentaire canadien là, quand James Philpott était ministre de la Santé il y a quelques temps. dans le gouvernement fédéral libéral, et ça a donné en fait un guide alimentaire qui est bien réputé à l'international et qui suit même les travaux d'une autre commission de la revue Lancet sur une diète, le système d'un point de vue planétaire. Donc on sait que avoir un ratio 1-1 mène à des résultats positifs qui peuvent être reproduits un petit peu partout, puis c'est ce qu'on souhaite mettre de l'avant.
Mais vous parlez d'adaptation, et je pense que c'est ce qui est, ouais, qui est assez intéressant, parce qu'on en entend presque pas parler, hein. On parle beaucoup de changement climatique. On dit, il faut réduire les émissions, mm-hmm, de gaz à effet de serre. On entendait François Legault, par exemple, cette semaine, ouais, dans son discours d'ouverture, parler de batteries vertes, recyclage de batteries, ouais, hydrogène, mettre fin aux hydrocarbures. Mais il y a rien là-dedans pour s'adapter, ouais, aux conséquences des changements climatiques, ce qui est inévitable. Ils sont là. Ouais. Ils vont continuer de nous faire subir des conséquences, les changements climatiques. Comment on s'adapte à un pays aussi grand que le Canada, aussi vaste que le Canada? Vous avez des suggestions à donner aux politiciens? Ouais. Comment on s'adapte?
C'est pas simple. Hein? Puis en fait, je pense qu'une des premières étapes, c'est de défaire les mythes comme quoi l'adaptation climatique, c'est l'échec. Souvent, on a l'impression de dire, on va s'adapter seulement si on n'a pas réussi les autres affaires. Et là, on se rend compte que même si demain matin, on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, on va devoir s'adapter au changement climatique. Ça devient inévitable. Puis plus qu'on tarde à le faire, plus que le coût va être élevé. Le coût en vie humaine, le coût économique, le coût en infrastructure. Et donc, il y a différentes affaires qu'on peut faire. Nous, une des recommandations qu'on formule, c'est qu'on développe une stratégie nationale d'adaptation. Donc, c'est dédié au gouvernement fédéral, mais le gouvernement provincial pourrait dire, l'idée me plaît, je le fais. Et il faut non seulement le faire, mais le financer adéquatement. Parce qu'on se rend compte aussi que la majorité des fonds gouvernementaux dédiés au projet, à la transition énergétique, notamment, au changement climatique, vont dans la mitigation, l'atténuation des gaz à effet de serre, ne vont pas dans l'adaptation. Donc, il faut financer adéquatement ces politiques-là. Il faut aussi savoir que, faut avoir une idée globale de c'est quoi nos besoins d'adaptation. Et souvent, ces sont morcelés en différents secteurs. Donc, on recommande vraiment d'entamer le processus de développer une stratégie nationale d'adaptation. Et en le faisant, reconnaître que l'adaptation sauve des vies. Parce que souvent, on va dire, ça a un coût élevé, hein, lutter contre le changement climatique, c'est des milliards investis dans les routes, etc. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que si on intègre les bénéfices potentiels de l'adaptation climatique sur la santé humaine, notamment tant physique que mentale, les politiques climatiques sont vraiment pas si coûteuses que ça. Et l'intégration de la santé, elle se fait pas de façon automatique pour différentes raisons. Ça me fait plaisir d'en parler, mais c'est encore très rare d'un point de vue gouvernemental qu'on lit santé et environnement. Et ça, je pense que ça fait en sorte qu'on n'adapte pas les meilleures politiques pour protéger la santé humaine.
Mais tu sais, dans le concret, là, si jamais il fallait, ouais, que Justin Trudeau prenne des mesures d'adaptation concrètes qui soient les bonnes, tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour qu'on soit capable de mieux recevoir, subir les conséquences. Je peux penser aux inondations, par exemple, mm-hmm, les feux de forêt. Ça, il va en avoir davantage. Ouais. Mais on peut pas. Est-ce qu'on peut se préparer à avoir des feux de forêt?
Mais concrètement, il y a des événements météorologiques extrêmes, mais c'est une façon qui sont hors de notre contrôle. Ils vont arriver parce qu'on les a aggravés, on a aggravé leur fréquence, leur intensité. Mais de façon très concrète, une des choses qu'on met souvent de l'avant, puis c'est le multiple de bénéfices pour la santé, puis la santé au sens physique et mental, c'est la place de la nature dans nos milieux de vie. On a complètement évacué la nature, on détruit nos milieux naturels qui sont pourtant, qui permettent de réduire la pollution atmosphérique, qui permettent de réduire de l'inondation. Si on le fait correctement, ça peut même limiter la propagation de certains feux de forêt. Dans nos villes, la présence d'arbres, c'est bon pour la santé. Ça incite à l'activité physique, ça fait bouger. Ça apaise, ça diminue le niveau de stress, ça augmente le niveau de bien-être. Honnêtement, la liste est plutôt longue. Donc, toute cette composante de solutions basées pour la nature, c'est des stratégies d'adaptation qui fonctionnent. Puis on estime que, en plus de favoriser l'adaptation, ça pourrait jusqu'à éliminer ou réduire jusqu'à 30% des émissions de gaz à effet de serre par la restauration de la nature. C'est d'ailleurs quelque chose qui avait été mis de l'avant là, il y a quelques semaines. Il y avait un éditorial conjoint qui a été publié dans 200 revues médicales à travers le monde. C'est un exercice jamais vu. Mais la recommandation principale, c'est pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce qui est toujours la cible de l'accord de Paris, là, mais duquel on se rapproche dangereusement. Et les recommandations principales, donc, c'était de protéger et de restaurer les espaces naturels. Et ça, on ne le sait pas encore, mais c'est une stratégie d'adaptation très concrète qu'on peut voir autant au niveau municipal, autant au niveau provincial que fédéral. À Montréal, on parle encore de détruire certains espaces verts pour les projets industriels. On le voit dans la communauté Rive-Sud, Rive-Nord. Et je pense que c'est un mot d'ordre qui devrait rentrer beaucoup plus de façon beaucoup plus forte là, dans nos milieux naturels pour les protéger. C'est pas les voir comme des opportunités nécessairement de développement économique parce que ça va nous revenir d'en face dans quelques années là, ou même dans les prochains temps.
Claudelle Pétrin-Desrosiers, merci d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée.